Bonjour à tous et bonjour à toutes. Heureux de vous retrouver pour un nouveau numéro de Talk Show comme chaque semaine sur Radio Judaïka Strasbourg. Notre invité aujourd'hui est le journaliste, elle aussi auteur de livres, et son dernier ouvrage s'appelle Destin de femme combattante aux éditions Fayard. Bonjour Valérie Pérez.
Bonjour Jean Chécroune, merci de me recevoir.
Avec plaisir. Alors Valérie Pérez, on va parler évidemment de votre livre. Je vous reviens un instant sur votre premier ouvrage, Destin de femme. Vous pouvez nous raconter ce qui s'est passé après. Il y a eu une histoire, il y a eu des lectures publiques, il y a eu une pièce de théâtre. C'est un livre qui a continué à vivre.
Ah ouais, absolument. C'est un livre qui a eu son propre chemin. Après l'édition du premier tome, on a mis les textes sur scène, en fait, au rond-point des Champs-Élysées, avec des acteurs et des actrices incroyables qui ont lu les textes de ces femmes, comme Emmanuelle Béart, comme on a eu Nicoletta, on a eu enfin vraiment des gens, Nadia Farès, Audrey Dana, qui étaient là sur scène pour lire les textes de ces femmes, et c'était beaucoup d'émotion. Parce que ce sont des femmes silencieuses et leur histoire a été portée très loin. Donc ça a été la première chose. Et puis après, on a créé le podcast Destin de femmes sur YouTube. Vous pouvez d'ailleurs vous abonner. Et là, vous découvrirez des interviews incroyables de femmes et d'hommes, d'ailleurs, qui sont des femmes et des hommes qui sont ordinaires souvent, mais qui vivent des histoires de dingue. Et ils nous partagent leur histoire. Et ce qu'il y a d'intéressant, c'est que en fait on c'est tout ça pour tous ceux qui viennent, c'est un effet miroir pour nous, c'est-à-dire qu'on se reconnaît tous dans leurs histoires et c'est la prolongation du livre.
La question que je me suis posée, ces histoires que vous racontez, ce sont des histoires que vous aviez depuis longtemps, que vous n'avez pas y mettre dans le premier, ou ces histoires encore actuelles?
En fait, si vous voulez, le deuxième tome, Destin de femmes combattantes, qui a été publié il y a quelques semaines chez Fayard, c'est un autre niveau littéraire. C'est-à-dire que je me suis laissée aller à l'écriture. Concrètement, dans le premier tome, j'avais peur en fait de trop m'éloigner des récits de ces femmes. J'avais l'impression en fait de m'approprier leur histoire. Et dans le deuxième tome, je me suis approprié leur histoire. C'est-à-dire que j'ai vraiment, dans chaque femme qui a été choisie, il y en a 14 dans des certaines femmes combattantes. Et dans chacune de ces femmes, il y a un petit peu de moi, en fait. Donc j'ai eu beaucoup plus d'implication dans cette écriture. D'ailleurs, Fayard a dû couper beaucoup parce que j'ai envoyé 600 pages au départ. Ah oui. Et c'est vrai que chaque femme, si vous voulez, c'était un petit peu de moi-même. Et c'est ça qui est intéressant dans ce livre-là. C'est que quand on lit ces histoires, on se retrouve. Et cette transmission de se dire, ben voilà, elle, ce qu'elle a vécu. J'entends tous les jours des histoires incroyables, des histoires qui sont silencieuses, de gens qui ne parlent pas, parce qu'il y a beaucoup de honte, il y a beaucoup de... On n'a pas envie, en fait, de dire qu'on vit des histoires abracadabrantes. Et en fait, ces femmes-là et ces hommes, ben, ils tombent, ils chutent, ils se blessent parfois très fort, mais ils se relèvent. Et en fait, c'est cette histoire d'espoir, moi, qui m'intéresse.
Alors, début du livre, vous parlez de vous, de votre histoire personnelle. Est-ce que ce n'est pas un peu impudique de raconter son histoire?
Ben, c'est-à-dire, vous avez raison, moi, je n'aime pas du tout parler de moi. On se connaît un petit peu, Jean. Vous savez que j'aime bien parler des autres, en fait, mais moi, en ce qui me concerne, je ne parle jamais de mon histoire. Mais là, si vous voulez, c'était tellement... comment vous dire, ça m'a tellement surprise et j'ai été tellement dans une histoire que je ne maîtrisais pas, que quelque part, pourquoi j'ai écrit cette préface et pas mon histoire, juste ma fuite de Dubaï, parce qu'en fait j'ai compris que ce livre Destin de femme, je ne l'avais pas écrit par hasard. Des fois on fait des choses et on ne comprend pas pourquoi. Et en fait, pour cette tranche de vie que j'ai vécue, j'ai compris pourquoi je m'étais intéressée à cette femme, Saria, dans le premier tome, qui était une femme libanaise qui reçoit une lettre de divorce, parce qu'au Liban, on peut divorcer simplement en recevant une lettre par la poste. Et en même temps qu'elle vit ce divorce qui est terrible, elle perd la garde de ses enfants. Et c'est exactement ce qui m'arrive aujourd'hui avec mes enfants qui sont bloqués à Dubaï, par un père qui ne veut pas les relâcher, en fait, alors que il y a des lois qui s'entrechoquent, il y a des... Enfin bon, vous savez, quand vous êtes dans une procédure...
C'est des garçons qui ont 13 et 15 ans, je crois, à peu près, donc voilà, c'est en plein adolescence. Je voulais avancer sur votre livre avec tous les témoignages qu'on reçoit. Vous êtes allé en Israël, au Liban, dans tous les pays du monde. Oui. C'était une contrainte ou c'était une demande ?
Par rapport aux femmes qui ont demandé à ce que j'ai... Par rapport... Non, ça a été des histoires, si vous voulez. D'ailleurs, je ne donne pas les vrais noms des femmes.
Hein.
C'est, j'ai vécu ces histoires avec elles. C'est des femmes que j'ai suivies, c'est des femmes que je connais.
Que vous avez rencontrées, donc ?
Ah oui, que j'ai rencontrées, pour certaines que j'ai côtoyées longtemps. Et c'était non, pour certaines, ce n'était pas des demandes, puisque j'ai relaté leur histoire parce que je les ai vécues à leur côté. Mmh. Et c'est vrai que, vous voyez, encore, les histoires, elles n'étaient pas racontées de manière volontiers, parce que c'était des choses qui étaient extrêmement intimes et personnelles. Donc c'est moi ce que j'ai ressenti, comment j'ai ressenti ce courage, comment j'ai ressenti cette résilience, et j'ai été très admirative, et c'est pour ça que j'ai raconté les histoires, mais en changeant effectivement les identités des femmes.
Alors il y a quand même une trame dans ce livre, c'est celui du départ. On voit que toutes les femmes partent de chez elles, quittent leur maison, quittent leur cocon entre guillemets. Ça, c'est une trame générale dans des histoires de femmes combattantes.
Ouais, la force en fait qu'elles ont en elles, la force de quitter finalement une situation qui est établie, la force de se dire je veux un autre futur, la force de se dire que finalement la vie n'est pas terminée et qu'il faut pas se soumettre à ce qui a déjà été établi. Et c'est quelque chose, oui, effectivement, de très commun chez ces femmes, de se dire à un moment donné, stop, je veux autre chose. Et c'est pas le choix facile, mais elles le font, et elles se reconstruisent avec beaucoup, beaucoup de mal. Encore une fois, c'est vraiment c'est aller vers l'inconnu, hein. C'est y aller sans savoir où on va. Et moi, je suis partie de celle-ci, en fait. Et on se rend compte que malgré les difficultés, ben, c'est le bon choix et on peut avoir un avenir meilleur.
Par contre, à la fin de chaque histoire, on a cette reconstruction qui est lente, qui était difficile pour certains. Ça aussi, c'était quelque chose qui vous intéressait d'en parler.
Oui, parce que ça fait partie justement de cette transmission, si vous voulez. Ce livre, en fait, il s'adresse à tous ceux et toutes celles qui se posent des questions sur leur vie et qui se disent « mais qu'est-ce que je dois faire ?» Et en réalité, ce qu'on voit, c'est que oui, effectivement, c'est dur. Oui, il y a des moments de grande solitude, mais quelque part, le chemin, il est là. Et ça, c'est la vie des femmes, c'est-à-dire de tomber, de se relever, de devoir faire, enfin, avoir à être face à des situations qui étaient absolument pas prévues, auxquelles on n'avait pas imaginé parce qu'on pense être dans un chemin de vie qui va nous mener dans un futur. Enfin, personne ne veut vivre ça. Et pourtant, on le vit. Et c'est un message à tout le monde en disant, écoutez, voilà, ça fait partie de la vie. Il y a des moments comme ça qui sont pas prévus. Et malgré tout, ben, on relève les défis. Vous savez, moi, j'ai côtoyé des sportifs de très haut niveau. Et je pense que c'est eux qui m'ont donné cette force, en fait, d'aller toujours plus loin, d'atteindre des objectifs qui sont des objectifs, finalement, qui sont impossibles à atteindre, puisqu'on demande aux sportifs d'aller plus loin dans les objectifs. Et ça, c'est quelque chose, cette résilience, cette combativité que j'ai vraiment appris auprès d'eux.
Valérie Pérez, un mot sur la couverture. Il y a une photo d'une jeune femme. Qui sait, est-ce que c'est juste comme ça ou vous connaissez cette femme-là ?
Non, alors c'est le choix de mon éditrice, enfin de Lily Bold de chez Fayard. Et en fait, si vous voulez, moi, ce que je voulais, c'était une femme universelle. C'était une femme vraie, c'était une femme naturelle, c'était une femme, vous avez dû voir qu'elle a un petit peu les cheveux grisonnants.
Oui, tout à fait.
Voilà, c'est un petit peu lutter contre ce jeunisme, être des femmes telles qu'on est, avoir envie de se montrer telles qu'on est, arrêter de lutter contre toutes ces injonctions qu'on nous donne dans la société. Elle sourit, parce que finalement on y arrive, et je trouve qu'elle représente très très bien ce qu'on est toutes les femmes. Et on a vraiment, enfin moi j'ai adoré cette couverture parce qu'elle elle est une et multiple en fait.
Valérie Pérez, un petit mot sur le titre Destin de femme combattante. Pourquoi ouais. Destin de femme combattante? On aurait pu mettre Destin de femme la suite, numéro 2, ou pourquoi le mot des combattantes en plus?
Parce qu'on est toutes des combattantes, parce que c'est vrai que quand on lit ce
c'est
titre...
C'est un terme un peu guerrier comme ça, hein.
Voilà, on a l'impression que c'est des femmes qui sont journalistes de guerre, ou bien c'est des femmes qui ont fait la guerre. Mais je pense que nous, toutes les femmes, on fait la guerre à notre manière. Et c'est des guerres qui sont dures à mener. Et c'est pour ça qu'on a choisi ce mot-là.
Dans la dédicace que vous m'avez fait, vous avez marqué cette histoire qui ont transformé leur épreuve en force.
Oui.
Est-ce que c'est tout le temps le cas?
Oui, absolument.
Toutes les épreuves, selon vous... devient une force au bout d'un moment.
Vous savez, on parlait tout à l'heure des sportifs de haut niveau. Quand vous les interrogez tous, ils vont vous dire on ne peut pas s'améliorer sans souffrance. C'est vraiment, si vous voulez, quand on est vraiment...
Bah, ce n'est pas la même chose. Oui, ça, c'est leur travail. Là, c'est leur vie personnelle.
Et
il y a comme
oui,
une différence.
Oui, non oui je pense que c'est une philosophie de vie. Ah. Je pense que c'est vraiment la manière d'envisager la vie. Et quand on traverse ces épreuves, eh ben oui, on devient plus forte parce qu'on va chercher des choses en soi qu'on n'imaginait pas avoir. Et en fait, elles y arrivent toutes, ces femmes. Alors, plus ou moins bien, avec plus ou moins de difficultés, avec des souffrances, des séquelles. Mmh. Mais elles y arrivent et elles relèvent la tête. Et c'est vrai que quand on les voit après, quand on fait ce parcours, je veux dire, quand bien même l'épreuve est difficile, elles continuent de lutter, elles trouvent quelque chose qui leur donne la motivation de continuer. Alors ça peut être dans la force des enfants, ça peut être dans la force du travail, ça peut être dans la force de s'accomplir soi-même, et c'est souvent aussi, Jean, dans la force de l'amour. Parce que nous, les femmes, il y a un point qu'on a en commun, c'est qu'on est toutes des éternelles amoureuses. C'est-à-dire que ce qui nous guide, nos choix, c'est fait par amour. Et ça, c'est quelque chose qui est fondamental. Et c'est ça qui nous permet finalement de garder la tête haute.
Dans toutes les histoires que vous racontez, il y en a une qui vous fait encore plus mal que d'autres, où c'est le même niveau, on va dire.
Si, je pense que celle qui m'a vraiment profondément touchée, et quand j'en parle là en ce moment, j'en parle et j'y pense et j'ai des frissons, c'est cette femme qui a perdu son fils le 7 octobre, cette femme de France qui avait envoyé son fils parce qu'il avait envie de vivre l'aventure israélienne.
De défendre son pays en fait.
Voilà, de défendre son pays. Et c'est vrai que cette femme, elle était française et son fils est arrivé comme ça avec cette envie qui était incontrôlable. Il part en Israël et il fait partie des premiers à tuer au kibboutz Nir Oz d'une balle dans la tête. Et cette femme-là, je veux dire, c'est une leçon de courage, c'est une leçon de dignité. La vie elle ne sera plus jamais comme avant pour elle. Et malgré tout, elle continue de lutter pour la mémoire de son fils, pour faire connaître son histoire. Aujourd'hui, elle habite en Israël. Mmh. Et c'est vrai que quand vous avez des femmes que vous connaissez qui vous racontent ces histoires avec tellement de dignité, vous ne pouvez les admirer, en fait. Et des histoires comme ça, c'est des histoires absolument terribles parce que quelque part, ça nous remet d'équerre à nous. On se dit, mais il y a tellement pire que ce que tu vis. Il y a tellement pire. Regarde cette femme, elle, ce qu'elle vit, elle est toujours là et elle continue à donner des conférences, elle continue à aller parler de son fils. Et ça, c'est on parlait tout à l'heure de ces miroirs, on parlait de transfert et puis on parle aussi de résilience. Donc quand on voit une résilience comme celle-ci, on se dit que nous, on n'a pas le droit de se plaindre en fait.
La transmission, c'est aussi avec ses enfants ou avec les...
Ah oui, c'est bien sûr avec ses enfants, c'est montrer un exemple, se dire que une maman, elle a le droit aussi de prendre une autre direction et montrer que l'humiliation, le dénigrement, la souffrance, c'est pas des choses en fait qu'il faut accepter. Donc au départ, peut-être que les enfants ne comprennent pas, mais un jour, ils comprennent que finalement, on a fait le bon choix. Et que peut-être ça leur donnera, eux, des références pour leur vie future. Mmh. Et moi, ce que j'espère, en ce qui me concerne, c'est que mes enfants ne feront pas pareil avec leur femme, qu'ils sauront l'honorer, la respecter, et qu'ils auront une vie de couple sereine, avec une construction mutuelle.
Alors, il y a évidemment plein d'histoires qu'on peut dire, chacune indépendamment des autres. Pour un peu comprendre ce livre, Je voudrais qu'on prenne deux exemples avec vous, Valérie Pérez. Le premier, c'est celui de la femme qui se fait, on va dire, embrigader à Dubaï, justement, avec un monsieur très, très riche qui a trois femmes et qui... Qu'est-ce qu'on peut dire?
Bah écoutez, c'est vrai que cette histoire, on m'en parle souvent parce que apparemment, c'est pas des histoires qui sont très connues, mais c'est franchement tellement courant là-bas, des Européennes qui viennent à Dubaï et finalement elles tombent amoureuses de ces hommes, oui, qui les gâtent, qui leur donnent une vie confortable, etc. Et puis l'envers du décor, c'est que ce sont des hommes qui sont polygames. Qu'elles vivent dans des espèces de prisons dorées et que c'est extrêmement difficile d'en sortir, celle-ci.
Mais elle n'est pas sortie encore, si j'ai bien compris le livre.
Celle-ci, elle n'est pas encore sortie.
Enfin, libérée, on va dire.
Et je pense qu'elle n'en sortira pas parce que c'est extrêmement difficile. Ça, c'est celle-ci-là que j'ai racontée, mais j'en ai d'autres de femmes qui ont exactement vécu les mêmes histoires. Et qui se retrouvent dans des situations absolument abracadabrantes parce que c'est notre culture, parce que voilà, par amour, parce que par manque de discernement, il y a été dans cette histoire. Et puis après, la découverte, ça a été comment gérer la polygamie, gérer cette culture qui nous est complètement étrangère.
Deuxième histoire dont je voulais vous parler, et elle m'a aussi un peu intéressé, en tout cas, c'était une belle histoire. C'est l'histoire de Sophie. C'est la dernière histoire de votre livre. Et là, c'est un homme qui détruit que par les paroles la femme avec qui il vit.
Oui, alors ça, c'est vrai qu'on parle beaucoup de ce genre de pathologie. Moi, je ne suis pas psy, donc j'aime pas trop parler de pathologie psychiatrique.
Ah, c'est une emprise, ça.
C'est une emprise, c'est ce qu'on appelle le pervers narcissique. Ils sont extrêmement nombreux, hélas, puisque quand j'ai écrit cette histoire, de nombreux amis m'ont appelé et m'ont dit « moi, c'est ce que j'ai vécu », alors que c'est des femmes que je connaissais depuis des années et qui s'étaient jamais, révélées, quoi. Et ça, c'est vrai que vivre avec ce genre de personnalité, quelque part, c'est ne plus avoir son cerveau, ne plus avoir la capacité de réfléchir, l'emprise qui est très forte, parce que en fait, ces gens-là choisissent des proies qui ont des formats particuliers. Ce que je veux dire, c'est que c'est souvent des femmes qui sont belles, des femmes qui sont intelligentes, qui ont des super boulots, etc. Et elles se retrouvent face à ces hommes où elles vivent l'isolement, où elles vivent du dénigrement, où elles vivent des choses qui les mettent sous cloche et qui les empêchent de pouvoir prendre les bonnes décisions.
Alors, on a parlé tout à l'heure de reconstruction, de force. D'où tire cette force-là, ces femmes-là? Comment on se reconstruit? Comment on s'en sort?
Alors, on se reconstruit doucement. Comment on s'en sort? Par des mains tendues, inattendues. C'est ce que j'ai voulu dédier ce livre, justement, la première partie de mon livre, la préface, à toutes ces mains qui se sont tendues à ce moment précis de ma vie que j'attendais pas.
Ça veut dire quoi, des mains tendues, des gens qui sont...
Des gens qui sont là, qui aident, qui vous donnent la bonne direction, qui vous aident sur tous les points de vue, vous rendez compte que finalement vous n'êtes pas seul et que les choses, même sans, ça sert à rien en fait de faire des plans sur la comète, parce que tout est écrit là-haut en réalité. Et c'est vrai que quand je parle de reconstruction, c'est une reconstruction d'abord en tant qu'être humain, parce que vous partez de loin, une reconstruction en tant que femme, parce que vous reprenez confiance en vous, et puis une reconstruction aussi dans votre vie sociale, parce que ces amis que vous avez, que vous n'avez pas vus pendant des années, parce que ces chemins de vie qui sont très traumatisants, finalement, ils sont encore là, et ils ne demandent qu'une chose, c'est vous aider. Pourquoi? Parce que eux-mêmes savent que la vie réserve des surprises, et qu'on chute dans la vie, et que ça arrive à tout le monde, et que c'est des gens bienveillants qui ne jugent pas. Donc la reconstruction, c'est ce long chemin initiatique qui vous permet de renaître. Vraiment, c'est ça le mot, vous êtes quelqu'un d'autre après ça. en étant beaucoup plus forte, en étant beaucoup plus virulente, en étant beaucoup plus alerte. Et c'est vrai que toutes ces femmes que j'ai rencontrées, elles me l'ont dit. C'était dur, mais on a fait le bon choix.
Valérie Pérez, Destin de femmes des combattantes, aux éditions Fayard. Est-ce qu'on peut éventuellement penser à une partie 3, un troisième livre où vous avez fait le tour de toutes ces histoires?
Ah non, non, bien sûr, il y aura une partie 3.
Ah, d'accord. Vous
me
rassurez.
Toutes les femmes que j'ai rencontrées, encore une fois, même des femmes ordinaires, elles ont des histoires extraordinaires. N'importe quelle femme relève des défis dans sa vie incroyables. Incroyables. Et c'est vrai que grâce à ce livre, et ça c'est ma mission, les langues se délient. Donc si le livre sert à quelque chose, c'est à ça. C'est se dire que les histoires des unes servent aux autres. Donc cette transmission-là dont on parlait, pour moi, elle est fondamentale. Mmh. Alors là, le mot fraternité, il existe depuis très longtemps. Mmh. Le mot sororité, il a été inventé il y a peu de temps, mais il a tout son sens. Et c'est vrai que quand on entend ce que vivent les autres, eh ben, quelque part, ça nous permet de nous dire à nous que, quelque part, elles ont vécu ça, elles s'en sont sorties. Donc méfiance au choix que vous faites. Mais en tous les cas, quand on fait le bon choix, j'ai envie de dire qu'on est récompensé.
Voilà. Qu'est-ce qu'on peut récupérer de ce livre? D'abord, il est en vente, il faut le savoir. Il y a des lectures publiques, des choses comme ça qui sont prévues ou pas pour le moment?
Alors, on a déjà fait une lecture lors de la première signature du livre la semaine dernière. Mmh. C'était un moment extraordinaire, entouré de gens justement très proches qui sont tous venus malgré leur emploi du temps chargé. Nadia Fares a lu un texte, elle a choisi le texte de Niloufar. Mmh. C'est cette Iranienne qui était justement à Dubaï et qui nous raconte son destin. Il y avait aussi Nathalie Tomasini, qui est une avocate spécialisée dans les violences faites aux femmes, qui a parlé d'où on en était justement au niveau du droit, etc. Et que dans la loi française, l'emprise n'est pas encore suffisamment prise en considération et qu'il y a des avocats comme ça spécialisés et qui connaissent bien les dossiers, qui luttent. Alors je rappelle que Nathalie Tomasini, c'était l'avocate de Jacqueline Sauvage, si vous vous souvenez, qui a fait avancer la France au niveau sociétal, quoi. Donc là, il y a eu une lecture, et évidemment, il y en aura d'autres, des lectures, parce que c'est important pour moi de porter les histoires de ces femmes très loin, avec des voix qui sont des voix extrêmement connues. Et je pense que c'est un hommage et pour moi une mission de femmes républicaines, c'est leur rendre justice, de faire connaître leur histoire loin.
On a commencé cette interview par parler de vous, on va la terminer par la même chose. Vos enfants sont toujours à Dubaï. Comment on vit ?
Mes enfants sont toujours à Dubaï, surtout dans cet environnement géopolitique extrêmement instable. Et je vous rappelle que les Émirats, c'est quand même l'endroit du monde qui est le plus frappé par...
Comment on vit ça ?
On vit ça très mal, en fait. On vit ça très mal. On dort pas. On se fait énormément de soucis, d'autant que là, l'école est à distance. Donc, le père aurait pu me les envoyer, mais il ne veut pas. Donc, il n'y a pas d'abri à Dubaï. C'est vrai que je suis beaucoup moins inquiète pour mon fils israélien, malgré tous les problèmes de la guerre, a eu un enfant, un petit garçon hier. Donc, je vous l'annonce, voilà. Donc, vous voyez, il y a quand même de la vie en Israël. Et c'est vrai qu'on est, j'ai envie de dire, habitué. On n'est jamais habitué à la guerre, mais on sait comment la gérer. Mes enfants à Dubaï, ils sont les seuls dans la cage d'escalier parce qu'ils ont ces habitudes israéliennes d'aller se protéger, mais ils sont seuls dans la cage d'escalier. Et c'est vrai que j'aurais tellement aimé les avoir près de moi, donc avec la distance, avec la guerre.
Vous êtes avec le téléphone tout le temps ouvert, je suppose ?
Le téléphone, évidemment, est tout le temps ouvert. Je les appelle plusieurs fois par jour, mais ça ne change pas à tout ce qu'on peut imaginer et tout ce qui pourrait se passer. Aujourd'hui, il y a des missiles qui sont envoyés par l'Iran qui sont des missiles qui peuvent laisser de nombreuses fragmentations. Et c'est vrai que les Émirats ne sont pas du tout équipés pour lutter contre ce genre de choses, parce que c'est un resort ouvert, parce que c'est un endroit où effectivement on a misé tout sur le tourisme, sur le bien-être, et que jamais on aurait pensé que l'Iran allait attaquer Dubaï. Sauf que quelque part, quand on réfléchit, Dubaï, c'est un petit peu l'Occident des Émirats, puisque il y a 90% d'étrangers là-bas. Voilà, d'étrangers là-bas, il y a que 10% d'Émiratis, d'expatriés, d'expats, exactement. Et donc, du coup, si vous voulez, ils sont complètement, ils sont différents dans leur manière de vivre, de tout ce qui se passe dans les pays autour d'eux. Donc moi, je suis pas du tout étonnée qu'ils soient pris pour cible, quoi. Et c'est vrai que le fait d'avoir mes enfants là-bas, pour moi, c'est un stress, une angoisse. Voilà, je le vis très mal, mais je le vis et je me dis que ça me dépasse, tout ça me dépasse. Il y a que la prière et il y a que la résilience et le fait de...
En hébreu, on dit la émoula.
Voilà, la force.
Ouais. Je voulais juste, puisqu'on a encore quelques temps, parce que vous avez une page Facebook qui est consacrée à l'actualité proche-orientale. Vous décryptez très souvent l'actualité. Alors, comment on fait pour vous suivre sur cette page-là? On tape Valérie Pérez TV ou comment on fait?
Alors voilà, ça c'est Valérie Pérez TV sur Insta et puis pareil sur TikTok. C'est vrai qu'au départ, j'ai commencé à faire ces petits éditos parce que moi-même, je comprenais pas grand-chose alors que j'ai vécu des années au Moyen-Orient. J'ai fait 40 documentaires. Je me dis, mais qu'est-ce que c'est que tout ça? Donc j'ai commencé à faire des petits éditos. J'ai eu 5,5 millions de vues avec une communauté vraiment qui est très très fidèle, avec qui je parle, à qui je réponds. Des gens qui me disent je ne suis que vous, parce que vous savez, quand on habite au Moyen-Orient, on peut faire tous les plans sur la comète, les diagnostics à un moment donné ils sont déjoués. Donc en fait c'est extrêmement factuel, moi ce que je dis, ce sont des informations qui sont vérifiées et je pense que les gens sont suffisamment intelligents pour pouvoir tirer leurs propres conclusions. Donc voilà, c'est du factuel, je fais 3 éditos par jour, je donne des infos quand elles sont confirmées et vérifiées. Il n'y a pas de plan sur la comète, je ne fais pas d'analyse, je ne suis pas experte militaire, moi. Mmh. C'est simplement que voilà, aujourd'hui on en est là, aujourd'hui on est dans une guerre régionale, aujourd'hui il y a plusieurs fronts qui sont ouverts en même temps. Voilà ce qui se passe en Israël, voilà ce qui se passe au Liban, voilà ce qui se passe en Irak, voilà ce qui se passe aux Émirats, voilà ce qui s'est passé. Voilà. Et pour moi, c'est très important de faire du travail de journaliste pur, sans en faire trop en réalité. Alors après, les chaînes info, oui, effectivement, elles ont besoin de remplir des tranches. Moi, je prends la parole 3 fois par jour, je fais des lives aussi souvent avec des gens avec qui je parle, avec qui me demandent des conseils, qui me disent voilà, je suis là, vous pensez que je dois rentrer. Donc voilà, et c'est quelque chose qui a pris une dimension incroyable très vite. Valérie Pérez TV. Sur Insta. Voilà, et pareil sur TikTok.
Et votre livre, évidemment, Destin de femme combattante, Valérie Pérez, aux éditions Fayard. Je vous remercie, Valérie Pérez. À très bientôt.
Merci beaucoup, Jean. Merci.